7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, des questions sur l'agriculture en France qui pourraient bien résonner chez vous ou comment l'accaparement des terres transforme l'agriculture d'un pays. Contrairement à ce que l'on croit savoir, cette pratique n'est pas réservée aux terres du Sud qui font l'objet de convoitises de pays plus riches. En France, avec les départs à la retraite massifs de toute une génération d'agriculteurs, il n'y a jamais eu autant de terres à vendre. Mais est-ce pour autant l'occasion de laisser des jeunes s'installer et imaginer une agriculture plus durable ? Pas si sûr, car le prix de la terre n'a jamais été aussi élevé. Et pourtant, nous sommes bien en France, pas dans le Far West, un pays où l'accès à la terre est ultra réglementé, mais où chaque année aussi, la surface agricole est amputée de l'équivalent de deux fois le département de la Seine-Saint-Denis, en raison de l'étalement urbain. Bonjour Lucile Leclerc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous êtes journaliste indépendante, notamment pour le monde diplomatique, et vous publiez « Hold up sur la terre » aux éditions du Seuil, 10 mois d'enquête sur un monde étonnamment opaque. Vous allez nous expliquer comment de grands groupes en toute légalité parviennent à acheter des centaines d'hectares et quelles sont surtout les conséquences économiques, écologiques sur l'agriculture et sur les agriculteurs. On sera aussi en ligne avec notre correspondante au Brésil, Sara Cozzolino, où l'agrobusiness est responsable de la déforestation de la forêt amazonienne, malgré les mobilisations. Et puis en fin d'émission, on entendra le plus célèbre des forestiers du monde, Peter Wolleben, auteur du best-seller sur les arbres, La vie secrète des arbres. Il vient de publier un nouveau livre, La promesse des arbres, un plaidoyer pour la protection forestière, à l'heure justement où le changement climatique menace l'ensemble de la vie sur Terre. Protéger les forêts serait pour lui un moyen de combattre le réchauffement climatique.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble. C'est votre vie au quotidien.
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
7 milliards de voisins, nous sommes en France aujourd'hui avec vous, Lucile Leclerc. Enquêter sur l'accaparement des terres en France, vous le dites, c'est tenter de pénétrer un monde opaque pour une telle enquête. Comment ça se fait que ce soit si difficile dans un État centralisé, avec une administration très performante? Pourquoi vous avez eu tellement de mal à enquêter sur le sujet?
Avant de répondre à votre question, peut-être rappeler aux auditeurs que la terre agricole en France, c'est plus de la moitié du territoire français. C'est un des biens les plus précieux que nous ayons, puisque c'est le réservoir de notre alimentation. Vous l'avez dit, l'accaparement des terres, voilà, on en avait déjà entendu parler, mais pas forcément concernant la France. En tout cas, moi, j'ai été étonnée de découvrir que depuis le début des années 2010, des milliers d'hectares sont acquis par des grandes entreprises en France. Il y a des choses dissimulées. Et l'objectif de mon livre, c'est de mettre en lumière ce qui se passe dans l'ombre. Alors, pour répondre à votre question, oui, ça a été difficile d'enquêter sur le sujet. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'agriculture. C'est mon troisième livre sur le monde agricole. Sur ce sujet-là, j'ai eu des difficultés. Il y a des agriculteurs, par exemple, qui étaient prêts à témoigner et qui, au dernier moment, se sont rétractés. L'État, à qui j'ai posé des questions, qui n'a pas voulu me répondre. C'est un sujet qui dérange, c'est un sujet sensible.
Alors, de quoi on parle exactement? De grandes enseignes de la distribution, de leaders de l'agroalimentaire, du secteur pharmaceutique ou cosmétique qui achètent des terres?
C'est ça. Je vais vous donner un exemple. On sait tous que la France est un gros producteur de céréales. Si vous allez à Port-Saint-Louis-du-Rhône et que vous prenez la route vers Marseille, vous allez voir quoi? Des champs de riz. Et c'est tout. Pourtant, il y a une exploitation qui est la plus grosse ferme de Camargue. Cette exploitation appartient à un groupe industriel, mais personne ne le voit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enseigne au-dessus des champs, il n'y a pas de marque dans le paysage. Et même les voisins ne savent pas à qui cette ferme appartient. Alors cet accaparement par les firmes, c'est difficile parce qu'on ne voit pas les choses. Et c'est pas dans une région.
Et c'est pas comme un magasin, une chaîne de magasins.
Non, c'est pas comme une chaîne de magasins puisque c'est très discret et ça se passe pas seulement dans une région en France, mais vraiment dans toutes les régions. C'est pas dans une production, c'est dans toutes les productions.
Oui, alors vous citez Euricom, justement, vendeur numéro un de riz en Europe. Alors, ce n'est pas précisément une céréale, mais enfin, ça peut être assimilé, qui a créé la plus grande ferme de Camargue au sud de la France, 1300 hectares. Alors qu'en moyenne, un producteur de riz détient 90 hectares et qu'il vit correctement avec 90 hectares. Et il y a des rendements qui sont presque deux fois supérieurs à la moyenne, notamment grâce aux engrais chimiques. Ça ne veut pas dire que les autres n'en mettent pas. Hein. Mais c'est sûr que là, en ce moment, avec la crise des engrais chimiques, pour des très grosses firmes comme ça, c'est beaucoup moins un problème. La ferme que vous citez, Euricom, hein, puisque vous avez commencé par cet exemple, perçoit chaque année une aide via la PAC, la politique agricole commune, de 680 000 euros. Alors que le montant moyen perçu par une ferme en France, c'est 30 000 euros. Tout de suite, on voit bien qu'on est dans un changement d'échelle. Quel est l'enjeu finalement pour ces firmes d'acheter de la terre alors que ce n'est pas leur métier à la base ?
L'enjeu pour ces firmes, c'est de maîtriser la chaîne de production de A à Z. Sur ces terres, les agriculteurs passent sous la direction du groupe et on n'a plus d'agriculteurs, mais on a des ouvriers salariés. Qui fait le plan de culture ? C'est le groupe. Qui décide des rations alimentaires pour les animaux ? C'est le groupe. Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, c'est la disparition du savoir-faire de l'agriculteur. Il n'y a que le paysan qui connaît sa terre. La terre, c'est un organe vivant. Quand elle est gérée à distance par un groupe, finalement, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre. Et c'est ça qui me frappe. On prend en considération une ferme comme une entreprise lambda, alors qu'on gère du vivant.
Mais pourquoi ces firmes veulent acheter de la terre en France et pas ailleurs, à l'étranger, alors que le prix de la terre a triplé ces 15 dernières années ?
Il y a deux choses. On disait tout à l'heure que parfois ces achats sont très discrets. C'est vrai. Il y a aussi des firmes qui achètent en France pour communiquer sur le Made in France. Et donc là, il y a une véritable dimension marketing dans cet achat. Et vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, finalement, que des groupes puissants s'intéressent à l'agriculture ? Qui est un secteur en crise depuis plusieurs années. Moi, j'ai rencontré pendant l'enquête des agriculteurs qui préfèrent être salariés pour un groupe plutôt qu'être indépendants. Parce que quand le cours du porc est à 1,10€ et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer l'aliment pour nourrir votre élevage...
Et rembourser ses dettes.
Et rembourser les dettes, vous n'êtes pas serein. Donc il y a un malaise profond. On sait que depuis les années 80, le taux d'endettement des agriculteurs a été multiplié par 4. Et on comprend que les groupes sont aussi des solutions dans un monde en crise.
Alors là, effectivement, vous parlez de salariés agricoles qui font leurs 35 heures, hein, donc le soir, qui peuvent rentrer chez eux, comme vous dites, beaucoup plus sereins. Vous évoquiez parfois pour certaines firmes le besoin d'afficher du Made in France. C'est le cas pour, alors là, une opération emblématique que vous citez, qui a été d'ailleurs très médiatisée, c'est la seule qui a été très médiatisée, c'est le chinois Reward, qui est le géant de l'agroalimentaire chinois, qui achète 1700 hectares en plusieurs morceaux, en plusieurs fois, en essayant d'être discret, 1700 hectares de céréales dans la Loire pour fabriquer une farine made in France.
Oui, c'est ça, 1700 hectares, donc 25 fois la taille moyenne d'une exploitation agricole en France, pour, vous l'avez dit, cultiver des céréales pour approvisionner sa chaîne de boulangerie en Chine. Alors, on le sait, les Chinois ont une politique d'acquisition de terres dans le monde entier parce que leur sol est pollué. Pour assurer un approvisionnement sain, les Chinois achètent des terres ailleurs et il n'y a pas que en Afrique que les Chinois achètent des terres. Donc on a raison de parler des sociétés chinoises qui achètent en France du foncier agricole, mais si vous voulez, sur le marché des terres en France, on ne trouve que 2% d'acheteurs étrangers. Alors l'histoire des envahisseurs, c'est un mythe. En réalité, ce sont aussi des groupes français qui achètent des terres.
Et essentiellement des groupes français. À 98%.
Oui.
À combien se chiffrent en hectares les rachats de terres par des grands groupes industriels dont la vocation n'est pas l'agriculture ?
Alors, sur les 26 millions d'hectares de terres agricoles en France, on ne sait pas quel est le pourcentage de ces hectares détenus par des groupes. Parce que ces achats échappent à l'appareil statistique. Pour moi, c'est important de se poser cette question aujourd'hui. Parce que le développement de cette agriculture de firme n'est pas neutre. Il y a des conséquences importantes pour notre alimentation, par exemple.
Vous nous dites, on ne peut pas chiffrer. Comment c'est possible qu'on ne puisse pas chiffrer avec une administration aussi développée que la France, quand on sait que tout le monde peut savoir sur Internet combien son voisin a payé sa maison, et qu'on a des transactions notariales qui sont publiques, que les recensements agricoles sont publics? Comment se fait-il qu'on ne sache pas combien de terres sont rachetées par des grandes firmes?
C'est une question intéressante. En France, les choses sont assez bien faites. On a une autorité qui est chargée de veiller à ce que la terre agricole reste entre les mains des agriculteurs. Cette autorité, c'est la SAFER, Société d'aménagement foncier d'établissement rural. C'est elle qui est chargée d'informer sur les évolutions du marché foncier. Peut-être pour revenir sur cet outil qu'on a en France, donc, qui a été créé dans les années 60, avec un objectif précis. À l'époque, on sort de la Seconde Guerre mondiale, la population a connu la faim et les difficultés d'approvisionner le marché de l'alimentation ont amené une prise de conscience sur la nécessité de réguler le marché de la terre. Donc la SAFER est créée avec cette idée simple. La terre, c'est pas un bien comme un autre. C'est ce réservoir de notre alimentation.
C'est-à-dire que vous ou moi, on peut pas demain acheter des terres agricoles.
C'est ça.
Probablement qu'on ne nous accorderait pas le permis d'acheter.
Exactement, puisqu'on n'est pas agricultrice. Donc, nous, on est les héritiers de cette époque-là, dans les années 60, où la SAFER a été créée. Et aujourd'hui, les SAFER existent toujours. On en a une par département. Si on revient à ce qui se produit actuellement, le développement de l'agriculture de firmes, si vous voulez, normalement, la SAFER devrait informer sur ce sujet. Mais ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'au départ, cet organe démocratique était censé favoriser les agriculteurs pour s'installer. C'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, elle est capable de vendre la terre à un groupe industriel. Quand j'ai demandé au président de la SAFER, Emmanuel Hiest, au moment de mon enquête, pourquoi la SAFER vend à des groupes industriels...
Au lieu de vendre, par exemple, à des petits agriculteurs des parcelles plus petites.
Oui, je n'ai pas reçu de réponse. C'est ça, l'omerta. Quand on se pose la question, quelle est la progression à la campagne de ces groupes? Eh bien, l'organe qui serait censé nous donner cette information statistique ne produit pas d'informations parce que la SAFER est aujourd'hui jugée partie. Elle contrôle le marché des ventes de terres, mais elle a des intérêts à vendre à des gros acheteurs puisqu'elle touche des commissions sur les ventes.
Et elle se rémunère essentiellement grâce à ses commissions, puisqu'elle ne perçoit pratiquement plus d'aide de l'État.
Oui, à 90% aujourd'hui, elle se rémunère sur les commissions touchées grâce aux ventes, alors qu'au départ, dans les années 60, la SAFER était financée à 80% par des fonds publics.
Effectivement, dans de très nombreux cas, la SAFER donne la préférence à l'installation de jeunes agriculteurs, hein, dans les délibérations, des délibérations qui ne sont d'ailleurs pas publiques. Vous avez pu assister à des délibérations de la SAFER, mais ce n'est pas du tout comme un conseil municipal où tout le monde peut assister. Ça aussi, c'est quand même assez étonnant comme mode de fonctionnement. Vous citez une affaire, c'est l'affaire Chanel. Alors, ça ne porte pas là sur des centaines d'hectares, parce qu'on est dans le monde de la fleur. Pour gagner bien sa vie dans la culture de la fleur, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'hectares que quand on fait du blé, par exemple. On est dans la région de Grasse, donc dans la campagne près de la Méditerranée. Avec 2 hectares de fleurs, on vit bien, c'est ce que vous nous racontez, hein, Lucile Leclerc. C'est l'équivalent de 3 terrains de foot, c'est ça?
Oui.
Depuis 2018, Chanel achète des terres, a acheté 10 hectares. Donc un quart de la surface de production dans la région et est devenu le plus gros producteur de fleurs pour ses parfums connus dans le monde entier. Vous avez mis 6 mois d'enquête pour savoir à combien Chanel avait acheté la terre.
Oui, c'était une enquête longue. Il y a beaucoup d'opacité autour de ce marché foncier. Et je me suis aperçue que Chanel achète 150 fois le prix moyen de l'hectare en France pour cultiver des fleurs pour mettre dans les parfums. Est-ce que vous croyez que des jeunes agriculteurs peuvent suivre? Ce qui est difficile, c'est que la SAFER, c'est aussi son rôle de réguler le prix de la terre. Mais au lieu de faire redescendre la température, elle laisse faire puisqu'elle a intérêt à ce que les prix montent comme elle touche ses commissions sur les ventes. On est devant une situation contradictoire où les autorités disent une chose, on régule le marché, on installe des jeunes agriculteurs. C'est vrai en partie, mais il faut aussi le contraire.
Chanel a payé 10 millions 10 hectares, 1 million l'hectare pour cultiver des fleurs. En fait, c'est 3 fois le prix du sol agricole sur place. Hein. C'est ce que vous donnez comme proportion.
Oui, c'est ça. Et 6 000 euros.
Parce que la terre est chère sur place, déjà, à la base.
Oui, la terre est très chère. C'est un secteur qui est en proie à une urbanisation galopante. Donc, les prix de la terre agricole montent. Comme elle est plus rare, en fait, quand un bien est plus rare, il est plus cher, tout simplement. Et par rapport au prix national, donc, en moyenne, c'est 6 000 euros l'hectare. En fait, Chanel, aujourd'hui, est capable d'acheter vraiment 150 fois le prix en moyenne.
1 million l'hectare pour cultiver des fleurs. Pourquoi la SAFER n'a pas bloqué la vente?
Alors, ce qui est ressorti...
Parce que ce qui est proposé par Chanel, en fait, c'est un prix qui est complètement en dehors du marché pour les autres agriculteurs autour, dans le coin.
Exactement, ça écarte des acteurs du monde agricole. Pourquoi la SAFER à laisser faire, je crois que c'est vraiment lié au modèle économique actuel de la SAFER, donc qui a cet intérêt financier à vendre à des acheteurs qui arrivent finalement d'un autre monde, hein, du monde industriel.
Parce que les commissions sont plus élevées aussi, donc il y aura plus d'argent qui va rentrer dans les caisses de la SAFER.
Oui, c'est ça. Et en fait, il y a un sentiment partagé aussi au sein du milieu agricole, puisque si vous voulez, les agriculteurs sont aussi les premiers bénéficiaires de l'arrivée de ces groupes. On parlait de ceux qui se lancent et qui préfèrent être agriculteurs salariés plutôt qu'être agriculteurs indépendants dans un contexte économique incertain. Il y a aussi des agriculteurs qui arrivent à la retraite. Ils sont endettés. Parfois, personne ne veut racheter la ferme et ils vendent discrètement à un groupe. Voilà. Donc, je raconte dans mon livre comment des agriculteurs en fin de carrière vendent le foncier agricole en sachant qu'aujourd'hui, la moyenne d'une retraite pour les acteurs, c'est 480 euros. Donc, vous imaginez, de vendre le foncier, ça représente un apport important. Mmh. On comprend que des acteurs retraités soient tentés de vendre à un groupe.
Ça veut dire que quand on regarde les images des champs de fleurs de Chanel sur Instagram, la réalité, c'est que de jeunes agriculteurs qui voudraient se lancer dans la culture de la fleur pour les parfums ne peuvent absolument plus du tout acheter la moindre parcelle aujourd'hui.
Oui, c'est exactement ça. C'est ça l'envers du décor. Il y a un point que j'aimerais aborder. Moi, j'ai le sentiment d'un retour en arrière. Avant, les agriculteurs étaient maîtres chez eux. Grâce à d'âpres combats, ils étaient devenus locataires ou propriétaires de la terre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'arrivée de groupes industriels qui relèguent l'agriculteur au rang de simple exécutant remet en cause des victoires qui ont été acquises par les générations précédentes.
Mais en même temps, on pourrait dire, mais ces grandes firmes sont très soucieuses de leur image. Elles se lancent pour une partie d'entre elles dans l'agriculture biologique, par exemple. Hein. C'est le cas pour le groupe Pierre Fabre, leader de la dermocosmétique, qui a 160 hectares cultivés en biologique. Alors finalement, quel est le problème? Si vous le disiez vous-même, les agriculteurs, pour certains, sont contents d'être salariés parce que le soir, ils rentrent, ils n'ont pas trop d'inquiétude pour rembourser leurs dettes. On a de l'agriculture biologique qui progresse parce que ce sont des groupes qui ont les moyens de se payer de l'agriculture en bio, de se payer les expertises pour transformer, par exemple, l'agriculture. Quel est le problème, dans le fond? Est-ce que vous n'êtes pas sur un problème d'ordre complètement philosophique, Lucille Leclerc?
Une des choses qui m'a le plus interpellée pendant l'enquête, c'est que ces fermes sont immenses. Mais au-delà de leur taille qui est importante, c'est la première fois dans l'histoire agricole en France qu'on a des entreprises qui peuvent acheter des terres à l'infini parce qu'elles en ont les moyens financiers. Avec une conséquence en particulier qui est quand même assez préoccupante, c'est la standardisation des exploitations. Avant, un agriculteur ne pouvait pas avoir 10 fermes en France. Ça n'existe pas nulle part. Aujourd'hui, un groupe industriel peut acheter 10 fermes et ces 10 exploitations répondent aux mêmes besoins de l'entreprise pour produire un produit unique. Pourtant, on sait que la diversité est bonne. Pour éloigner les maladies, par exemple, c'est un sujet que j'ai développé dans un livre précédent sur la perte de diversité. Des journalistes et des ONG ont déjà alerté sur les dangers de l'agriculture industrielle. Pour moi, l'arrivée de groupes qui font de l'agriculture, c'est tout simplement une nouvelle étape dans l'industrialisation de l'agriculture.
Vous parlez d'une logique minière qui se répand dans les campagnes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nos auditeurs?
La production agricole devient partie intégrante de l'entreprise du groupe. Et donc, les fermes deviennent des filiales de la société mère. Vous allez me dire, est-ce que vous préférez pas un groupe industriel qui fait du bio plutôt qu'un agriculteur indépendant qui utilise des produits chimiques. Moi, je vous réponds ni l'un ni l'autre. Pour moi, l'idéal, c'est d'avoir un agriculteur indépendant qui fait de l'agriculture paysanne.
Cette logique minière qui se répand dans les campagnes, vous expliquez aussi dans votre enquête, Lucille Leclerc, que finalement, vous l'avez dit, c'est une terre qui est gérée par des cadres supérieurs, à partir de bureaux, hein, et non pas des personnes qui sont sur la terre tous les jours. Et ce sont surtout des marchandises qui sont transportées sur des milliers de kilomètres. On n'est pas du tout dans une agriculture locale la plupart du temps.
Non. Ces groupes industriels ont une envergure internationale. Donc, les produits qui sont fabriqués sont exportés aux quatre coins de la planète. Donc, un des résultats de l'enquête, c'est justement de prendre la mesure de l'internationalisation de l'agriculture qui est provoquée par l'arrivée de ces groupes à la campagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement un bilan carbone plus élevé.
Vous restez avec nous, Lucille Leclerc. Dans quelques instants, on va partir pour le Brésil pour retrouver notre correspondante Sarah Cozzolino et parler de l'accaparement des terres qui se fait là, pour le coup, beaucoup de manière illégale. Mais vous aurez des choses à commenter. Et puis nous allons revenir sur les conséquences et le changement de paysage en France et de ce que nous réserve peut-être l'accaparement des terres ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une mobilisation contre cet accaparement des terres ? On y revient dans quelques instants. Ce sera juste après Christophe Maé. C'est ma terre.
On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Abîmante nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre. Je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. Ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas, non.
7 milliards de voisins, vous écoutez RFI, nous parlons de l'agriculture aujourd'hui. Hold up sur la terre, c'est le nom de l'enquête de Lucille Leclerc sur l'accaparement des terres en France, en toute légalité, de grandes firmes, des grands groupes industriels qui achètent des terres en grande quantité. Nous partons maintenant pour le Brésil, retrouver notre correspondante Sarah Cozzolino. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors au Brésil, la situation est très différente. Dans le pays où vous habitez, l'accaparement des terres se fait surtout de manière illégale.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle le grilage au Brésil, qui vient du mot portugais grill, le grillon. Et c'est un terme qui fait référence à une ancienne technique utilisée par des faussaires pour occuper illégalement des terres publiques. Ils enfermaient les actes de propriété dans des boîtes pleines de grillons, pour leur donner un aspect ancien et donc plus crédible. Maintenant, évidemment, il y a d'autres techniques de falsification. En général, c'est un processus qui se fait selon un schéma classique. Il y a d'abord invasion des terres et expulsion s'il y en a des occupants légitimes, que ce soit des petits paysans ou des communautés indigènes. puis déforestation du terrain et exploitation illégale du bois sur place, et ensuite occupation de ce territoire avec des activités illicites, donc l'élevage de bétail, la culture de soja, de canne à sucre, pour ensuite faire de la spéculation immobilière et revendre ce terrain à d'autres producteurs ruraux. C'est un accaparement illégal qui est financé par de grands industriels qui, pour la plupart, sont regroupés dans le sud-est du pays. Et c'est un phénomène qui s'est accéléré à partir des années 70, quand le gouvernement militaire a commencé à encourager les propriétaires ruraux à investir l'Amazonie.
Et quelles sont les conséquences sur l'agriculture au Brésil et l'Amazonie ?
Alors, les principales victimes, d'abord, sont les habitants qui sont sur place. D'abord, ces accaparements, ils génèrent des conflits sur place, puisque les expulsions des populations indigènes ou des petits paysans, elles se font de manière très violente, avec des milices armées qui vont sur le terrain. Ça génère aussi des inégalités, puisque au Brésil, 1% des propriétaires possèdent près de la moitié de toutes les superficies rurales du pays. Et enfin, des conséquences effectivement environnementales, puisque d'abord de la déforestation, des études montrent que cet accaparement illégal, il est responsable de 30% de la déforestation en Amazonie, et puis ensuite de la monoculture et donc l'utilisation, une augmentation de l'utilisation de pesticides.
Et avec Jair Bolsonaro, est-ce que c'est un processus qui s'est largement accéléré ? Son gouvernement a d'ailleurs présenté un projet de loi pour régulariser les terres acquises illégalement au Brésil. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Oui, alors ça s'est effectivement accéléré et ce projet de loi, c'était sa promesse de campagne qu'il avait fait au lobby agricole et minier. C'est un projet qui permettrait de légaliser des invasions de terres illégales avant 2019. Et alors, il y a eu une forte mobilisation quand même de la société civile, d'ONG, de communautés indigènes qui étaient venues à Brasilia au mois d'août dernier et puis au mois de mars. Donc, ça a permis de retarder l'adoption de cette loi, mais tout se joue encore dans les mois à venir. Ce projet de loi, il pose de grands risques pour les communautés indigènes, d'abord puisque la plupart de ces accaparements illégaux se font en terre indigène, et pour la déforestation, puisque selon Imazone, qui est une ONG d'Amazonie, ce projet de loi il pourrait provoquer une augmentation de la déforestation de 16 000 km² à l'horizon 2027.
Oui, c'est presque demain. Merci beaucoup Sarah Cozzolino, correspondante au Brésil. Lucille Leclerc, vous publiez Hold Up sur la Terre. Là, ça concerne une enquête sur la France, les achats de terres en toute légalité par de grands groupes industriels. La France, ce n'est pas le Far West brésilien où tout est possible. Il y a clairement quand même deux situations totalement différentes. Qu'est-ce que vous voyez comme similitude ou pas ?
Oui, alors j'étais très intéressée par ces informations données par Sarah Cozzolino. Oui, on a deux contextes politiques très différents. Je dirais que face à un accaparement illégal, se trouve une situation où chez nous, les pouvoirs publics participent de l'accaparement des groupes. On parlait de la SAFER un peu plus tôt. L'Europe a aussi une part de responsabilité dans cette évolution en France vers une agriculture de plus en plus industrielle, puisque on sait que donc la PAC, cette enveloppe...
La politique agricole commune.
Politique agricole commune, merci, qui est une enveloppe de 25 milliards d'euros par an à l'échelle de l'Union européenne. La France en est le premier bénéficiaire. Au départ, cette politique était censée soutenir les agriculteurs. Aujourd'hui, elle soutient aussi les groupes qui font de l'agriculture.
Mécaniquement. Si ces groupes deviennent propriétaires de la terre, elle les soutient comme elle soutient les agriculteurs.
Oui. En fait, ce qu'on peut dire aussi... Alors, j'avais entendu parler des Santerres au Brésil qui luttent contre cet accaparement. En France, il existe une mobilisation. En tout cas, j'ai constaté que l'achat de terres par des groupes n'était pas toujours facile, en dehors de la SAFER, de
Alors, l'Europe. Redisons, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, les SAFER, qu'est-ce que c'est exactement ?
La SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. On en a une par département.
Voilà. Et ces SAFER, en réalité, vous donnez un chiffre qui est assez inquiétant, c'est qu'il y a 1 hectare sur 3 qui échappe aux SAFER, c'est-à-dire qui échappe à toute régulation. 1 hectare sur 3 qui est acheté sans que la SAFER départementale puisse donner son point de vue, puisse exercer son droit de préemption ou autre.
Si vous voulez, il y a un marché des ventes de terres qui est imbriquée dans le marché des ventes d'entreprises. Jusqu'à 2022, ce début d'année, la SAFER n'avait pas de moyens d'agir pour réguler ce marché des ventes d'entreprises. Mais au début de l'année, il y a eu une grande loi foncière qui a été votée pour moderniser la SAFER et aujourd'hui, elle est capable d'intervenir sur ces ventes de terres qui se font à travers les ventes d'entreprises. Mais aujourd'hui, je dirais que la SAFER n'est pas outillée par rapport aux nouvelles règles du jeu. Cette loi foncière qui avait été votée pour moderniser la SAFER est insuffisante. On voit qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant. J'ai le sentiment qu'on fonctionne avec des principes qui ont été érigés au milieu du XXe siècle, alors que le contexte économique d'exploitation des terres, lui, a complètement changé.
Et que ces rachats de terres massifs datent d'il y a à peine une dizaine d'années, oui, hein, finalement, et qu'on n'a toujours pas le chiffre. On n'a toujours pas le chiffre du nombre d'hectares rachetés chaque année par des firmes. Ce chiffre n'existe pas, n'est pas disponible, vous ne l'avez jamais trouvé. Alors, quelle est la mobilisation locale pour empêcher un projet agricole de firme de voir le jour? On a vu que, par exemple, il y avait une grosse mobilisation. Ça, c'est étonnant, parce que alors, vous êtes une journaliste du Nord, hein, vous êtes basée à Lille. Il y a une grosse mobilisation autour d'Auchan. Auchan, le berceau d'Auchan, la famille Muliez, c'est le nord de la France. Et Auchan avait comme projet des fermes autour des supermarchés pour produire de l'agriculture biologique autour de ces supermarchés. A priori, c'était plutôt un chouette projet. Sauf qu'il y a une grosse mobilisation et que ces fermes n'ont pas vu le jour. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, en fait, Auchan avait le projet d'ouvrir une cinquantaine de fermes avec une dimension en moyenne de 60 hectares par ferme. Donc ça aurait fait 3000 hectares. Si vous voulez, ça aurait été la plus grande ferme légumière de France. L'objectif d'Auchan, c'était de produire des légumes pour approvisionner ses magasins. C'est vers la fin des années 2010. C'était dans le département du Nord. Auchan a voulu reprendre des terres pour donc cultiver des légumes et lancer sa première ferme. Tout un village a lutté contre la ferme Auchan.
Et pourquoi?
Parce qu'ils ne souhaitaient pas que les terres soient cultivées par la grande distribution. Finalement, le projet a été reporté, selon les termes d'Auchan. Mais dans les faits, on peut se demander s'il n'est pas annulé. Et dans mon livre, je donne d'autres exemples qui montrent que l'agriculture de firme n'est pas une fatalité. Rien n'est écrit d'avance. Celui qui a de la terre a aussi une indépendance alimentaire. Donc, si vous voulez, de tout temps, la terre agricole a été un enjeu. Il y a toujours eu des luttes pour l'accès à la terre. Il y a de nombreux exemples de conflits fonciers dans l'histoire. Comment la terre se partage? C'est une question fondamentale. Et tout l'enjeu de l'enquête, c'est de voir ce qu'on peut apprendre et tirer comme leçon de l'époque actuelle.
Qu'est-ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics? Comment rebâtir une politique foncière plus adaptée aux enjeux actuels?
Oui, bah justement, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que demain, la France pourrait légiférer pour éviter que la terre ne devienne la propriété des industries. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'on le fasse? Il manque une prise de conscience par chacun, de ce qui se passe autour de chez soi.
Déjà, faudrait-il que nous soyons informés, nous, en tant que citoyens? Ce n'est pas le cas pour le moment. Hein. Dans les années à venir, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, Lucile Leclerc? Est-ce que vous pensez que la balance, elle va pencher du côté de ces hectares mis en vente et rachetés par des firmes industrielles? Ou est-ce qu'il y aura une nouvelle génération de jeunes agriculteurs qui vont pouvoir accéder à la terre et à une agriculture plus durable, comme le voudrait les exigences du réchauffement climatique?
Alors moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Pour moi, c'est pas aux journalistes de décider quelle agriculture on veut. Ce qui est certain, c'est qu'on vote avec notre fourchette. On a tous un pouvoir à ce niveau-là. Et ce pouvoir ne sera rien tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience à plus grande échelle et une vraie réforme de la SAFER qui est menée. Ce que je peux dire, c'est que on est certainement dans une période de bascule. Dans les trois prochaines années, 160 000 fermes sont à transmettre. Moi, je me pose la question, qui vont être les agriculteurs demain?
qui vont être les agriculteurs demain, d'autant plus que vous nous avez cité au début de l'émission des agriculteurs qui deviennent salariés, qui trouvent d'ailleurs certains avantages hein, quand ils sont salariés de ces grandes firmes. Il faut préciser aussi que ces gigantesques fermes, parfois de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'hectares, ne créent pas d'emplois. Hein. Il y a très très peu de travailleurs en fait dessus, parce que c'est très mécanisé. Il y a parfois 6 salariés, c'est les exemples que vous citez. Vous citez aussi le cas d'agriculteurs qui deviennent des prestataires, comme une sorte de ubérisation finalement.
Oui, dans ces grandes exploitations qui appartiennent à des firmes, parfois les travailleurs sont salariés, mais parfois le groupe ne s'embête pas avec des salariés et il fait travailler des sous-traitants, c'est-à-dire des acteurs qui sont indépendants et qui vont répondre à une demande de prestation. Par exemple, un céréalier vient pour moissonner, c'est 90 euros de l'heure. Pour semer, c'est 45 euros de l'heure.
Donc, voyez, il vient avec son tracteur dans ces cas-là ?
Il vient avec son tracteur. Et donc, c'est vraiment comme un chauffeur Uber qui a investi dans le matériel, donc en l'occurrence une voiture. Là, l'agriculteur investit dans le matériel dont il a besoin pour cultiver. Il met ses machines à disposition du groupe et le groupe fait de l'agriculture à bas coût dans la mesure où lui n'a pas à s'endetter. Ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est un modèle gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour l'agriculteur qui fait des prestations, ça permet vraiment d'arrondir ses fins de mois. On parlait tout à l'heure de l'endettement. Pour un céréalier, en moyenne, c'est 250 000 euros l'endettement. Donc, ça lui permet d'amortir aussi sa dette plus vite.
Donc, ça veut dire que ce sont quand même des agriculteurs qui, par ailleurs, sont propriétaires de terres, mais qui ne parviennent pas à vivre suffisamment bien de leurs terres. Dans le cas où on aurait à terme beaucoup plus de prestataires, est-ce que ces agriculteurs ils seraient quand même représentés dans les chambres d'agriculture ? Est-ce que leur voix compterait pour décider demain quelle agriculture on veut en France ?
Un des problèmes du développement de la sous-traitance, c'est le défaut de représentation politique, puisque aujourd'hui, pour voter dans une chambre d'agriculture, il faut avoir un statut indépendant, être agriculteur indépendant. Or, on voit se développer, en fait, il y a un vrai boom de la sous-traitance dans le monde agricole. Et ce sont vraiment des pratiques invisibles. Les institutions aujourd'hui qui gouvernent le monde agricole sont des vieilles locomotives dans la mesure où elles n'ont pas encore pris en compte ce changement qui est fort et qui est croissant sur le terrain. On sait qu'en région Occitanie, par exemple, on a 2 hectares sur 10 qui sont concernés par cette sous-traitance. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique. Et les groupes industriels font appel à des agriculteurs sous-traitants, mais il y a aussi d'autres situations, comme par exemple un agriculteur qui part à la retraite et plutôt que de céder son exploitation, il va faire travailler un sous-traitant. Et comme ça, en même temps, il va toucher son aide PAC. Vous voyez, c'est pas simple. Ce qui est certain, c'est que la petite retraite des agriculteurs ne facilite pas l'arrivée de la génération d'après. La relève est d'autant plus difficile à venir quand elle doit payer un coût à l'entrée qui est finalement comme un numerus clausus à l'entrée de la profession.
Est-ce que la nouvelle génération de jeunes agriculteurs, pour certains d'entre eux qui veulent une agriculture plus durable, qui se mettent à plusieurs pour acheter des terres collectives, hein, notamment via des systèmes de coopératives, est-ce que ça a de l'avenir ou est-ce que ça reste encore totalement minoritaire ?
Oui, on peut parler par exemple de la Fondation Terre de Liens qui a acheté des terres depuis la fin des années 2000 en France. Aujourd'hui, elle possède 6000 hectares. Vous allez me dire, sur les 29 millions d'hectares de terres agricoles, c'est anecdotique. Oui, mais ça fait bouger les consciences, ça politise les agriculteurs, un peu comme l'agriculture biologique. Finalement, tous ne sont pas d'accord, mais tous en pensent quelque chose. On est pour ou on est contre, et ça fait évoluer les mentalités.
Merci à vous, Lucile Leclerc. Il faut lire votre enquête passionnante « Hold up sur la terre » aux éditions du Seuil et Reporter. Merci à vous d'être passé chez 7 milliards de voisins.
Merci.
Restons au plus près de la nature. On va donner la parole au plus célèbre forestier agronome du monde, Peter Wohlleben, auteur de best-sellers sur les arbres. Il vient de publier « La promesse des arbres ». Ça sera juste après. Un peu de soul avec l'oncle Ben. When I get nothing but you to hold so tight, something inside me says you're gonna make it all right. Two trees coming
from the same soul, the same seeds. I love the way you sway through the same breeze. Just two trees, two trees, two trees, two trees. Coming from the same soul, the same seeds. I love the way you sway through the same breeze. Just two trees, two trees. Time, no, we can't go wrong. You know we'll never fall, cause these roots too long. Just in beside me, how we gonna grow so high? From the same soul, the same seeds. I love the way you sway through the same breeze. Just two trees, two trees, two trees, two trees. Coming from the same soul, the same seeds. I love the way you sway through the same breeze. Just two trees, two trees.
Le plus célèbre des agronomes forestiers du monde. Peter Wolleben est un grand connaisseur des arbres et des forêts. C'est un sujet qu'il a su rendre vivant d'ailleurs auprès du grand public après la publication en 2015 de son best-seller La vie secrète des arbres, vendu à plus d'un million d'exemplaires, traduit dans une trentaine de langues. On y apprenait d'ailleurs que les arbres sont à notre image, des êtres sensibles, doués d'intelligence, donc capables d'adaptation. Et bien cette année, l'auteur publie un nouvel ouvrage, La promesse des arbres. C'est un plaidoyer pour la protection forestière à l'heure où le changement climatique menace l'ensemble de la vie sur Terre. Protéger les forêts serait pour lui un moyen de combattre activement le réchauffement climatique. Notre reporter Alice Roujat l'a rencontré.
Peter Wolleben, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Jardin des Plantes à Paris. Alors, si ce n'est pas une forêt, ici on rencontre quand même des vieux et vénérables arbres, des entités que vous affectionnez particulièrement. Pourquoi est-ce que c'est le cas ?
Les vieux arbres sont très précieux. Bien sûr, ils sont vieux, ce qui signifie qu'ils ont résisté à des siècles de changements climatiques et d'attaques d'insectes. Ce sont donc les arbres les plus forts et les plus sages, parce qu'ils stockent des souvenirs. Nous savons qu'ils peuvent partager des souvenirs avec leur progéniture, qu'ils peuvent apprendre rapidement d'un jour à l'autre. Et donc, oui, ils sont un peu comme les arbres-mères dans le film Avatar. James Cameron n'avait pas besoin de beaucoup de fantaisie car ses protagonistes existent dans la réalité et ce sont ces arbres-mères que nous trouvons dans la nature ou dans ce merveilleux parc.
Un des principaux enseignements qu'on tire à la lecture de votre livre, c'est que nous ne sommes finalement pas si différents, nous, les animaux, des végétaux. Du coup, ce que vous nous dites, c'est que nous avons beaucoup à apprendre des arbres et des forêts.
Oui, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est « Ayez confiance dans la nature ». Par exemple, l'une des principales forces d'influence en Allemagne, un scientifique qui conseille le gouvernement, dit que la nature n'est plus capable de se guérir elle-même. Ce qui est fou parce que les forêts sont là sur cette planète depuis 300 millions d'années et qu'elles sont encore capables de s'organiser tant qu'elles ne sont pas perturbées. Et d'autre part, les forêts sont importantes pour nous car elles refroidissent le climat local. Par exemple, dans une ville comme Paris, un jour d'été très chaud, il pourrait faire 20 degrés de moins avec une forêt. Parce que les arbres transpirent de l'eau, ils créent des nuages pour qu'il y ait plus de pluie. Donc, toutes nos préoccupations concernant les jours d'été plus chauds et les étés plus secs, les arbres peuvent les effacer tant qu'ils peuvent agir comme une forêt.
Justement, le sous-titre de votre livre, c'est « Comment la forêt nous sauvera si nous la laissons faire ?» Vous partez du principe que les forêts pourraient être nos meilleurs alliés pour combattre le changement climatique.
Exactement. Les forêts sont de grandes machines à pluie. Elles ne font pas que refroidir le climat local. Elle crée aussi des nuages, et ça on le sait depuis au moins 200 ans. Alexander von Humboldt, un célèbre scientifique allemand, écrivait déjà en 1831 que les forêts sont très importantes pour le refroidissement et l'humidité des paysages. Et les arbres ne font pas les choses pour nous, ils les font pour eux-mêmes, parce qu'ils détestent les journées chaudes d'été. Ils détestent la sécheresse, alors ils la modifient. C'est comme ça qu'ils réagissent. Un arbre sait qu'il n'est pas capable de se déplacer. Alors que nous, si quelque chose ne va pas chez nous, nous nous en allons dans une nouvelle maison. Les arbres, eux, restent à la même place pendant des siècles, voire des milliers d'années. Et la seule chose qui peut leur simplifier la vie, c'est de modifier leur propre environnement. Et ils font ça depuis des millions d'années en créant leur propre climat local. C'est exactement le même objectif que nous devons atteindre.
En vous entendant, on pourrait se dire que la meilleure solution, ce serait de replanter des arbres et de recréer des forêts. C'est d'ailleurs une idée qui est brandie par de nombreux acteurs politiques. À cela, vous répondez oui, mais tout dépend de comment.
Ce que nous voyons en ce moment, c'est une grande campagne de greenwashing. Achetez un t-shirt et nous plantons un arbre. Ça signifie donc que nous compensons notre production de CO2 en plantant des arbres. Ce n'est pas possible car au cours des premières années, voire des premières décennies, le sol rejette plus de CO2 que les nouveaux arbres ne peuvent en capter. Et il est beaucoup plus important de sauver les vieilles forêts. En fait, nous avons besoin de combiner le sauvetage des vieilles forêts et la replantation de nouvelles forêts sur les terres agricoles. Pourquoi est-ce que je précise qu'il doit s'agir de terres agricoles ? Parce qu'en Allemagne, nous assistons aujourd'hui à une grande campagne de greenwashing de la part de l'industrie forestière, qui fait ce qu'on appelle des coupes rases et qui replante derrière. Et les gens pensent « oui, nous faisons quelque chose de bien pour l'environnement ». Bien sûr que planter des arbres sur les terres agricoles, c'est toujours une bonne idée, mais ce serait bien mieux s'il n'y avait pas de coupes rases dans ces forêts.
Et c'est intéressant parce que vous comparez nos systèmes d'exploitation forestière à l'élevage industriel.
L'invention de la sylviculture moderne, il y a 300 ans, ça a été de laisser les arbres pousser comme des cultures dans les champs. On voit encore les forêts comme à cette époque-là. Ça signifie que c'est une plantation. Nous sommes tous conscients que, par exemple au Brésil, il est très mauvais de couper une grande quantité de forêt tropicale et de la remplacer par une plantation d'eucalyptus. Mais ici, en France et en Allemagne, on pense que les plantations d'épicéa et de pin douglas sont des forêts. Non, ce sont des déserts verts, et toute notre vie végétale et animale indigène a besoin de chênes, de hêtres ou d'érables. Et ils ne peuvent pas manger ces aiguilles de pin douglas, par exemple. Alors on plante des déserts verts et on pense que c'est une forêt. Mais non, c'est une grande culture qui s'appelle le bois. Et donc nous devrions changer ça parce que ces plantations sont en train de mourir maintenant. En Allemagne, par exemple, j'estime que dans les 10 prochaines années, nous perdrons 50% de notre couverture forestière. Il s'agit des plantations d'épicéa et de pin, qui ne sont pas indigènes dans la plupart des régions d'Allemagne. Elles sont en train de mourir en nombre croissant. Jusqu'à présent, nous avons perdu 5% de la couverture forestière totale de l'Allemagne au cours des 4 dernières années. Nous devons séparer la commission des forêts de l'État et les vendeurs de bois. La commission des forêts de l'État est l'un des principaux acteurs du marché et doit en même temps contrôler les abus forestiers, ce qui ne fonctionne pas dans les faits. On doit donc séparer les acteurs afin d'avoir un véritable contrôle de l'État sur ces questions.
Vous dites que c'est en connaissant les arbres et en apprenant à les aimer qu'on sera capable de les protéger. Alors, pour terminer cet entretien, j'aimerais vous demander comment nous, en tant qu'individus, est-ce qu'on pourrait se reconnecter avec les arbres ?
Tout d'abord, allez dans un parc comme celui où nous nous trouvons actuellement. Il y a de vieux arbres merveilleux qui rendent heureux. Essayez de toucher un arbre. Je ne sais pas et je ne pense pas que l'arbre s'en soucie, mais ça vous donne une sensation agréable. Essayez d'empêcher l'abattage des vieux arbres dans les villes, parce qu'il fait plus chaud pour vous et que c'est gênant, et que vous avez de la peine pour ce vieil arbre. Donnez-leur un peu d'eau. Bien qu'un grand arbre ait besoin, par une journée chaude d'été, de plusieurs milliers de litres d'eau, mais si vous n'avez que 10 litres, c'est bien aussi. Je pense que si vous vous connectez à l'arbre qui est devant votre porte, c'est déjà énorme. Cet arbre-là, ainsi que tous les autres, mérite d'être sauvé.
Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'amitié au masculin, à laquelle vous avez été très nombreux à souhaiter participer. Dans quelques instants, le journal sur RFI.
7 milliards de voisins, c'est fini.